Traces de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec à la technique Stéphane Marin. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à Oscar Ladislas de Lubic Miloš, Les Sept Solitudes. Oscar Ladislas de Lubic Miloš est né le 18 mai 1877 en Lituanie, une étrange et lointaine province russe aux confins de la Pologne, d'une famille de vieille noblesse. Il passera une petite enfance douloureuse entre un père déséquilibré et une mère sans tendresse. Il trouve refuge dans une envoûtante demeure et un grand parc abandonné. Il ne peut exprimer son trop d'amour. Miloš dit « Car je n'ai jamais eu, ô nourrice, ni père ni mère, et la folie et la froideur erraient sans but dans la maison. Folie du père, froideur de la mère. » La famille Miloš vient s'installer en France, à Paris. Oscar Ladislas de Lubic Miloš fait ses études secondaires au lycée Janson de Sailly. De 1896 à 1899, il poursuit ses études à l'école du Louvre, en même temps qu'à l'école des langues orientales, cours d'épigraphie hébraïque. En 1899, paraît son premier recueil, Le poème des décadences, dans une certaine indifférence, à part Paul Fort qui définit ainsi le recueil. Il y a là des tons de luxure, d'étranges et mystérieuses mélancolies. Son verbe est sonore, mais harmonieux, ses images rares et justes. Miloš est un jeune homme, maigre, de haute taille, d'apparence étrange. Ses épaules larges et voûtées expriment irrésistiblement son lourd destin de solitaire, en même temps qu'elles dégagent la force de son repliement intérieur. L'œil bleu, parfois cruel et perdu, quelque chose d'un envoûteur infiniment distingué, sans âge. Tous ses traits se modèlent sur le sens de sa pensée et s'animent selon l'ardeur de son langage. Il est très émotif. De 1902 à 1906, il séjourne sur ses terres, c'est-à-dire en Lituanie. Son séjour est entrecoupé de voyages d'études, les pays d'Europe et l'Afrique du Nord. Il retourne en Lituanie pour se reposer et aussi retrouver l'émerveillement de son enfance. Malheureusement, il se sentira encore plus seul. Il ne retrouvera pas l'émerveillement. 1914 est pour Miloš l'année d'une illumination de visionnaire qui bouleverse sa vie spirituelle et le conduira vers un itinéraire spirituel. Des intuitions qu'il s'efforcera d'étayer sur le terrain de l'analyse linguistique, ethnologique et scientifique. À cette date, il a déjà conduit son œuvre sur trois registres, lyrique, ses œuvres poétiques, romanesques, l'amoureuse initiation, dramatique, scène de Don Juan et Miguel Manera, et Méphistos. Ces terres, étant situées dans une partie de la Lituanie annexée par la Russie, Miloš sera mobilisé en 1916 dans les divisions russes de l'armée française et affecté au bureau d'études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. En 1917, ces terres, qui représentent 30 000 hectares, seront confisquées par les bolcheviks. En 1918, la Lituanie deviendra indépendante. Miloš adoptera cette nationalité et s'occupera du service de sa patrie. Et dans ce poste-là, ce sont des postes diplomatiques en France jusqu'en 1938. Il achèvera ses jours à Malotte, près de Fontainebleau, dans une demeure où, dans une solitude franciscaine, il vivra près de ses amis ailés, les oiseaux de la forêt. Catholique depuis 1927, citoyen français depuis 1931, ayant reçu en 1932 une nouvelle illumination lui faisant découvrir les origines ibériques du peuple juif, il ne composait plus que des ouvrages d'ethnologie et d'exégèse biblique. Il est mort le 2 mars 1939 dans sa maison de Fontainebleau. Dans le poème des décadences, perce le grain lyrique par une forme ample et souple, des inflexions particulières, des thèmes qui annoncent l'œuvre de maturité. Si le poète voile pudiquement les souvenirs précis du temps douloureux de l'enfance, il reste là les effets d'une irrémédiable nostalgie, du pays perdu, d'une appréhension devant la fuite du temps. Le poète est en quête de l'amour, amour charnel qui le déçoit, amour dont il espère le don d'une nouvelle dimension à sa vie. La déception le rapproche d'un anus profond, d'une recherche de l'oubli par le sommeil, l'alcool ou le suicide. Thank you. Miloš adopte les thèmes et le ton du symbolisme qui s'accorde à sa nature ne sont pas éloignés des légendes et des brumes nordiques, traduisent aisément un climat de tristesse, de lassitude, de décitude exprimée avec dignité et fierté. En un temps où le symbolisme s'amenuisait, il n'a pas craint de se dire décadent et de pousser sa désolation au plus noir, aucune lueur mystique ne venant encore l'éclairer. Il a recours au murmure, à un choix de mots et d'images qui lui sont personnels. On trouvera le parc malade de lune, le retour de tous les morts, pouvant exprimer des climats noirs et douloureux, des touches qui font penser à Baudelaire. Lali. Le parc malade de lune était profond comme une âme. La couleur de la nuit était belle comme la douleur. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Au parc malade de lune régnait une dont la vie était sœur de la mort des brises sur les fleurs. La couleur de la nuit était belle comme la douleur. Toutes ces choses sont si loin, si loin. La brise des jardins du nord et les fleurs savaient le nom de celles qui étaient leurs pensées et leurs mélancolies. Toutes ces choses sont si loin, si loin. La lune au ciel profond chantait « bon sommeil, Lali des parcs qui jauniront, Lali des roses qui mourront, Lali était le nom de ma mélancolie. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Les yeux de Lali étaient l'heure où les lagunes pâlissent étrangement de pressentir les ténèbres. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Deux papillons d'un rouge mort étaient les lèvres de Lali, la princesse confidente de la lune. Ah, les beaux baisers de Lali, nuit d'avril aux tièdes ténèbres. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Mon amour était un peu moins qu'un ange, un peu plus qu'une fleur, mon amour perdu. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Ma pensée était la langueur des jours où le bonheur lui-même pleure de la douceur de se sentir de mes. Ô mon amour, non, mon lointain amour, mon amour perdu. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Et maintenant la neige tombe, un lourd flocon d'oubli tombe. Tombe lentement, tombe sur le sépulcre de mon amour. Toutes ces choses sont si loin, si loin. Bon sommeil, Lali douce. Lali des roses mortes, des parcs jaunis, dans le sépulcre de l'amour. Bon sommeil. Ah, toutes ces choses sont si vieilles, si vieilles.
Oh, Miloche nous lit la tristesse d'un mot avec un sourire enfléchi d'amertume, chant de la lointaine. Je serai dans ton cœur l'été sans fin des îles du Sud, un paysage vierge où tes accords connaîtront la beauté de se sentir docile, orime élysien des lignes de mon corps. Je serai le sanglot de la bonne fontaine où toute soif d'amour boit les couleurs du soir, et tu t'étonneras de trouver la lointaine à la première étape à ton chemin d'espoir. Je serai ta forêt, tes nuages, ta plaine, tout ce qui sourira de te revoir si grand, car la mort des printemps fit douce mon haleine, dernier effort de brise en un jardin dormant. Je quitterai pour toi le vitrail du soleil, et tu me trouveras assise sur ta couche, la rose du silence au coin de cette bouche, et dans ses mains de miel la coupe du sommeil. À ton recueillement je serai solitude, à ton labeur silence, et je t'enseignerai à façonner tes vers selon les attitudes des cygnes riverains, anges des cieux sombrés. Je serai l'heure franche où teintent les matines l'odeur de l'ombre et de la terre, quand il pleut, la voix des moissonneurs derrière les collines, toute la joie immense en pleurs de l'été bleu. Et je serai la nuit, ma robe est la poussière des noctuelles d'or, sous la lune moirée, le battement muet et lent de mes paupières est un essaim dormant de myrtilles des forêts. Pour plaire à tes bonheurs, j'apparaîtrai sereine, comme un nuage heureux, suspendu dans l'éther, mais parfois triste aussi pour séduire tes peines, comme un adieu d'enfant à de candides mères. Avec un peu d'eau vive, et de vin et de sable, je saurai recréer tes visions d'enfant, avec quelques brins d'herbe, une forêt de fables, pour y bercer ton cœur orphelin du vieux temps. Je sais des lieux dormants, mystérieux, semblables aux paysages purs, qui rêvent dans le cœur. Un charme ténébreux, tendre, indéfinissable, y chuchote mon nom dans les arbres pleureurs. Je me couvrirai de manteaux de somnolence, semé de fleurs comme une nuit de la Saint-Jean, et la mousse, l'écho, la lune, le silence reconnaîtront en moi la sœur du confident. Heureux de pouvoir comparer ta foi nouvelle à l'aloès qu'enfante un siècle de torpeur, tu t'agenouilleras et ma chair sera belle de la couleur de l'ombre et de la mort des fleurs. Puis, trouvant à ma bouche un goût de fruits sauvages, tu béniras ma vie et tu me souriras comme un enfant rêveur sourit à son mirage dans une eau calme à l'heure où le soleil est bas. Tu dénoueras dans le midi ma chevelure où se débattront des papillons aveuglés et tu diras « Voici l'été, la terre est mûre, la moire des vents lourds se couche sur les blés. La vapeur d'or d'un grand sommeil doucement flotte sur la plaine, le jour des failles de douceur. Je ris, et l'on dirait que mon rire sanglote dans la mélancolie immense du bonheur. Confidente de l'ombre et des sols bruissants, j'ai peur de tes chansons qui s'achèvent en traîne. Je sens souffrir ma vie au profond de tes veines, ton cher reflet sommeille au secret de mon sang. Et tu diras encore, j'aime ta bouche, agreste, les sources de ton rire et le goût de ton cœur. Vois, le ciel semble avoir pâli de notre inceste, ton nom d'amante est beau, dis-moi ton nom de sœur. Je rirai doucement de te voir pris au piège de ma tendresse et de mon charme, et je dirai, l'amour est pur comme un parfum de personnage au mois du renouveau dans l'antique forêt. L'amour, cher ciel bleu-gris, fait d'âme apaisée, voix du pardon nocturne au jardin repentant, où l'insomnie heureuse enfante les rosées. L'amour, tout ce qu'on pleure et tout ce qu'on attend. Comme elle sonne loin, dans les feuilles trop mûres, l'automnale chanson prometteuse d'été. J'ai vu s'éteindre au jardin fou des chevelures les juillets de mon âme embellie exalté. Je ne me souviens plus au coin de quelle route ma vie a déposé le fardeau de l'espoir. Et j'ai tout vu mourir, la foi comme le doute, la tristesse du jour comme la nuit du soir. Je me suis embarqué sur le fleuve des âmes pour le royaume des orgueils découronnés, et mon indifférence abandonne les rames à l'onde létéenne où je me reconnais. Et mon cœur est la cloche où ses aspects réclament sous le bataille géant un sinistre péan, et le néant de tout se couche sur mon âme comme sur les noyés le poids de l'océan.
À 30 ans, Minoche publie les Sept Solitudes, qui révèlent sa voix véritable et son univers d'une obsédante nostalgie, son amour du passé, de ce qui est détruit, perdu, déchiré, déchirant. Les événements, les paysages, les êtres qu'il évoque se situent dans un pays d'enfance retrouvé en larmes. Minoche, par nature, aime les évocations antiques. La légendaire Karomama représente avant tout son être intérieur, une image de la féminité éternelle, idéale, énigmatique, une préfiguration peut-être de la Vierge qu'il rencontrera avec la foi. Karomama. Mes pensées sont à toi, reine Karomama, du très vieux temps, enfant
dolente aux jambes trop longues, aux mains si faibles. Car Obama, fille de Thèbes, qui buvait du blé rouge et mangeait du blé blanc, comme l'est juste dans le soir des Tamaris, petite reine, car Obama du temps jadis. Mes pensées sont à toi, reine, car Obama, dont le nom oublié chante comme un cœur de plainte dans le demi-rire et le demi-sanglot de ma voix. Car il est ridicule et triste d'aimer la reine Karomama qui vécut environnée d'étranges figures peintes dans un palais ouvert tellement autrefois. Petite reine Karomama, que faisais-tu de tes matins perdus, dame Karomama? Vers la raideur de quelque dieu chétif à tête d'animal, tu allongeais grement tes bras maigres et maladroits, tandis que des feux doux couraient sur le fleuve matinal. Ô Karomama, aux yeux lasses, aux longs pieds alignés, aux cheveux torturés, morte du berceau des années, ma pauvre, pauvre reine Karomara. Et de tes journées, qu'en faisais-tu, prêtresse savante? Tu taquinais sans doute tes petites servantes, dociles comme les couleuvres, mais comme elles, indolentes. Tu comptais les bijoux, tu rêvais de fils de roi, sinistres et parfumés, arrivant de très loin, de par-delà les mers, couleur de toujours et de loin, pour dire « Salut à la glorieuse Karomama ». Et les soirs d'éternel été, tu chantais sous les sycomores sacrés, Karomama, fleur bleue des lunes consumées. Tu chantais la vieille histoire des pauvres morts qui se nourrissaient en cachette de choses prohibées. Et tu sentais monter dans les grands soupirs tes cymbas d'enfants noirs et ton âme chancelait d'effroi les soirs d'éternel été. N'est-ce pas, Karomama? Un jour, a-t-elle vraiment existé, Karomama? On entoura ton corps de jaunes bandelettes, on l'enferma dans un cercueil grotesque et doux en bois de cèdre. La saison du silence effeuilla la fleur de ta voix, les scribes confièrent ton nom au papyrus. Et c'est si triste, et c'est si vieux, et si perdu. C'est comme l'infini des eaux dans la nuit et dans le froid. Tu sais sans doute, ô légendaire Karomama, que mon âme est vieille comme le chant de la mer et solitaire comme un sphinx dans le désert. Mon âme malade de jamais et d'autrefois. Et tu sais mieux encore, princesse initiée, que la destinée a gravé un signe étrange dans mon cœur, symbole de joie idéale et de réel malheur. Oui, tu sais tout cela, lointaine Karomama. Malgré tes airs d'enfant qui sut éterniser l'auteur de ta statue polie par les baisers, des siècles étrangers qui languissent loin de toi, je te sens près de moi, j'entends ton long sourire chuchoter dans la nuit. Frère, il ne faut pas rire. Mes pensées sont à toi, reine Karomama. Thank you. Dans la poésie d'Oscar Vladislas de Lubic-Miloch, la tristesse profonde, la hantise de la mort et du néant sont conduites au paroxysme, au bord du cri, avec cependant une retenue, un ton assourdi, voilé, un avant-goût du monde surnaturel qui vit en lui laisse pressentir sa conversion et le sens de ses recherches et de ses approfondissements. Une rose pour l'amante, un sonnet pour l'ami, le battement de mon cœur pour guider le rime des rondes, la nuit pour moi, le vin des rois pour mon ennui, mon orgueil pour la vanité de tout le monde, ô noble nuit de fête au palais de ma vie, et la complainte pour mon secret dans le lointain de la citronnelle et de la rue, et du romarin. Le rubis d'un rire dans l'or de cheveux, pour elle, l'opale d'un soupir dans le clair de lune pour lui. Un nid d'hermine pour le corbeau du blason, pour l'amour des ancêtres, ma forme qui chancelle d'illusion et de vin dans les miroirs couleur de pluie. Et pour consoler mon secret, le son des rouets qui tissent la robe des moribonds. Un quart d'heure et une bague pour la plus rieuse, un sourire et une dague pour le plus discret, pour la croix du blason une parole pieuse, le plus large Anna pour la soif des regrets, une porte de verre pour les yeux des curieuses. Et pour mon secret, la litanie désolée des vieilles qui grelottent seuil des mausolées. Mon salut pour la révérence de l'étrangère, ma main à baiser pour le confident, un tonneau de gin pour la gaie misère, des fossoyeurs pour l'évêque luisant, 10 monnaies d'or pour chaque mot de la prière, et pour la fin de mon secret, un grand sommeil de pauvre dans un cercueil doré.
Thank you.
Pour les morts, Miloche écrit une pathétique berceuse en employant une musique sourde et funèbre. Ce cimetière de Lofoten, qui prend un air de légende, la simplicité du chant, un souvenir romantique, rendent un son incomparable. Tous les morts sont ivres. Tous les morts sont ivres de pluie, vieilles et sales, au cimetière étrange de Lofoten. L'horloge du dégel dit tactique, lointaine au cœur des cercueils pauvres de Lofoten. Et grâce aux trous creusés par le noir printemps, les corbeaux sont gras de froide chair humaine. Et grâce au maigre vin, à la voix d'enfant, le sommeil est doux aux morts de Lofoten. Je ne verrai très probablement jamais ni la mer ni les tombes de Lofoten, et pourtant c'est à moi comme si j'aimais ce lointain coin de terre et toute sa peine. Vous disparus, vous suicidés, vous lointaines au cimetière étrange de Lofoten, le nom sonne à mon oreille étrange et doux. Vraiment, dites-moi, dormez-vous? Dormez-vous? Tu pourrais me conter des choses plus drôles, beau claret dont ma coupe d'argent est pleine, des histoires plus charmantes ou moins folles. Laisse-moi tranquille avec ton Lofoten. Il fait bon. Dans le foyer doucement traîne la voix du plus mélancolique des mois. Ah, les morts, y compris ceux de Lofoten, les morts sont au front moins morts que moi. Le rocher, la nuit, le vent, le lac, le soleil, le silence, la mer, la lune, la terre, les moments, la patrie, le trahi, le retour, la muse, présence concrète ou abstraite, sont les éléments de sa quête et les titres de ses poèmes. Miloche veut devenir un élément du cosmos et cherche des transfigurations comme celle de la mort dans sa communion avec la vie et l'univers. Graissement doux. Grincement doux et rouillé d'une berline, le crépuscule pleure de vieille joie. Il faudrait pourtant aller voir qui est là. Bonjour, comment vous portez-vous, Miloche Plin? les chevaux du passé hennissent, le soir aux fenêtres de l'oubli. La diva que vos sentiments applaudissent, Milord, l'avez-vous revue en Italie? Il pleut doux de la pluie ancienne sur les toits rouges d'autrefois. Merci pour votre aimable lettre de sienne, et Noël se souvient-il encore de moi? Comme plus haut un aubergiste rond et des chambres discrètement baignées de demi-jours de toile d'araignée. Il nous faut mon cœur profond. Cette perpétuelle blessure du cœur qui marquait la poésie de Miloš semble lui avoir fait trouver à la fois victoire et refuge, non plus dans le monde malheureux et trouble de l'amour profane que longtemps guetta ce poète, mais dans celui glorieux de l'amour divin. De l'émotion poétique, Miloš passe alors à la vision mystique. Son écriture tend aux versets bibliques une fermeté nouvelle et une lumière, une confiance jusqu'alors inhabituelle, se font jour dans les poèmes qui ne sont plus des plaintes, des souvenirs poignants, des coups d'aile étranges, mais des cantiques qui définissent sa volonté religieuse. Il entend passer du monde des symboles, monde intermédiaire, flottant et stérile, et de l'attrait du non-être, à l'étude, à la révélation de la parole divine. Et surtout que demain n'apprenne pas où je suis. Les bois sont pleins de baignoires. Ta voix est comme un son de lune dans le vieux puits où l'écho de juin vient boire, et que nul ne prononce mon nom là-bas en rêve. Les temps sont bien accomplis, comme un tout petit arbre souffrant de prime sève, et ta blancheur en robe sans plis. Et que les ronces se referment derrière nous, car j'ai peur du retour. Les grandes fleurs blanches caressent tes doux genoux, et l'ombre est pâle d'amour. Et ne dis pas à l'eau de la forêt qui je suis, mon nom est tellement mort. Tes yeux ont la couleur des jeunes pluies sur l'étang qui dort. Et ne raconte rien au vent du vieux cimetière, il pourrait m'ordonner de le suivre. Ta chevelure sent l'été, la lune et la terre, il faut vivre, rien que vivre.
Miloš sacrifiera le poème à l'exégèse, la poésie à la métaphysique et puis à l'étude religieuse. Il consacrera par exemple son temps à l'interprétation rhitographique de l'Apocalypse, d'où il tirera en 1933 de terribles prophéties pour les années 1938 à 1944. Il n'y a que les oiseaux, les enfants et les saints qui sont intéressants, disait Miloš. Fidèle à cette affirmation, ce grand poète fut l'extraordinaire ami des oiseaux et comme eux doué des pouvoirs du chant et de ceux de l'élan vers les hauteurs. Il fut aussi longuement hanté par le paradis perdu de l'enfance. Il s'éleva enfin par les chemins qui vont de l'amour profane à l'amour mystique, aux confins de la sainteté. Mais à ces confins, il se perd pour nous dans le silence, tandis que nous gardons de sa poésie la voix mélodieuse et blessée. Cantique du printemps. Le printemps est revenu de ce lointain voyage.
Il nous apporte la paix du cœur. Lève-toi, chère tête, regarde, beau visage. La montagne est une île au milieu des vapeurs, elle a repris sa riante couleur. Le printemps est revenu de ses lointains voyages. Il nous apporte la paix du cœur. Lève-toi, chère tête, regarde, beau visage. La montagne est une île au milieu des vapeurs, elle a repris sa riante couleur. Ô jeunesse, ô viorne de la maison penchée, ô saison de la guêpe prodigue, la vierge folle de l'été chante dans la chaleur. Tout est confiance, charme, repos. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. Un grave et pur nuage est venu d'un royaume obscur. Un silence d'amour est tombé sur l'or de midi. L'ortie ensommeillée courbe sa tête mûre sous sa belle couronne de reine de Judée. Entends-tu ? Voici l'ondée. Elle vient. Elle est tombée. Tout le royaume de l'amour sent la fleur doux. La jeune abeille, fille du soleil, vole à la découverte dans le mystère du verger. J'entends bêler les troupeaux, l'écho répond au berger. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. Nous suivrons la musette au lieu abandonné, là-bas dans l'ombre du nuage au pied de la tour. Le romarin conseille de dormir, et rien n'est beau comme l'enfant de la brebis, couleur de jour. Le tendre instant nous fait signe de la colline voilée. Levez-vous, amour fier, appuyez-vous sur mon épaule, j'écarterai la chevelure du sol, nous regarderons dans la vallée. La fleur se penche, l'arbre frissonne, ils sont ivres d'odeur. Déjà, déjà le blé lève en silence comme dans les songes des dormeurs. Amour puissant, ma grande sœur, courons, on nous appelle, l'oiseau caché des jardins. Viens, cruel cœur, viens, doux visage, la brise aux joues d'enfant souffle sur le niage de jasmin, la colombe aux beaux pieds vient boire à la fontaine, qu'elle s'apparaît blanche dans l'eau nouvelle. Que dit-elle ? Où est-elle ? On dirait qu'elle chante dans mon cœur nouveau, la voici lointaine. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. La femme des ruines m'appelle de la fenêtre haute, vois comme sa chevelure de fleurs folles et devant s'est répandue sur le chenou croulant, et j'entends le bourdon strier, vieux sonneur des chouvres innocents. Le temps est venu pour nous, folle tête, de nous parer des baies qui respirent dans l'ombre. Le loriot chante dans l'allée la plus secrète. Ô sœur de ma pensée, quel est donc ce mystère ? Éclaire-moi, réveille-moi, car ce sont choses vues en songe, autres et certainement je dors, comme si la vie est belle. Plus de mensonges, plus de remords, et des fleurs se lèvent de terre qui sont comme le pardon des morts. Ô mois d'amour, ô voyageur, ô joie de joie, sois notre hôte, arrête-toi, tu te reposeras sous mon toit. Tes graves projets s'assoupiront au murmure ailé de l'allée. Nous te nourrirons de pain, de miel et de lait. Ne fuis pas. Qu'as-tu à faire là-bas ? N'es-tu pas bien ici ? Nous te cacherons au souci. Il y a une belle chambre secrète dans notre maison de repos. Là, les ombres vertes entrent par la fenêtre ouverte. Sur un jardin de charme, de solitude et d'eau, il écoute. Il s'arrête. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. Voici un extrait de la symphonie de septembre de Miloche. Soyez la bienvenue, vous qui venez à ma rencontre, dans l'écho de mes propres pas, du fond du corridor obscur et froid du temps. Soyez la bienvenue, solitude de ma mère, quand la joie marchait dans mon ombre, quand les oiseaux du rire se heurtaient au miroir de la nuit, quand les terribles fleurs de la jeune pitié étouffaient mon amour, et quand la jalousie baissait la tête et je se regardais dans le vin, je pensais à vous, solitude, je pensais à vous, délaissée. Vous m'avez nourri d'humble pain noir et de lait et de miel sauvage. Il est doux de manger dans votre main comme le passereau, car je n'ai eu, ô nourrice, ni père ni mère, et la folie, la froideur erraient sans but dans la maison. Quelquefois vous m'apparaissiez sous les traits d'une femme, dans la belle clarté menteuse du sommeil. Votre robe avait la couleur des semailles, et dans mon cœur perdu, muet, hostile et froid, comme le caillou du chemin. Une belle tendresse se réveille aujourd'hui encore à la vue d'une femme vêtue de ce brun pauvre, chagrin et pardonnant. La première hirondelle vole, vole sur les labours, dans le soleil clair de l'enfance. Solitude, ma mère, redites-moi ma vie. Voici le mur sans crucifix, la table et le livre. Fermé, si l'impossible attendu si longtemps frappait à la fenêtre, comme le rouge-gorge au cœur gelé. Qui donc se lèverait ici pour lui ouvrir? Appel du chasseur attardé dans les marais livides, le dernier cri de la jeunesse faiblit et meurt, la chute d'une seule feuille, remplie d'effroi, car le cœur muet et la forêt. Qu'as-tu donc, triste cœur? Une chambre assoupie où les coudes sur le livre fermé, le fils prodigue écoute sonner la vieille mouche bleue de l'enfance, ou un miroir qui se souvient, ou un tombeau que le voleur a réveillé. Lointain heureux, porté par le soupir du soir, nuage d'or, beau navire chargé de manne par les anges, est-ce vrai que tous vous avez cessé de m'aimer, que jamais je ne vous verrai plus à travers le cristal de l'enfance, que vos couleurs, vos voix et mon amour, que tout cela fut moins que l'éclair de la guêpe dans le vent, que le son et l'alarme tombés sur le cercueil, un pur mensonge, un battement de mon cœur entendu en rêve. Seul, devant les glaciers muets de la vieillesse, seul avec l'écho d'un nom et la peur du jour et la peur de la nuit, comme deux sœurs réconciliées dans le malheur, debout sur le pont du sommeil, se font signe, et comme au fond du lac obscur, la pauvre pierre des mains d'un bel enfant cruel jadis tombé, ainsi repose, au plus triste du cœur, dans le limon dormant du souvenir, le lourd à mort.
Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré aux yeux ouverts sur les pensées de la nuit. Et bonne semaine à tous.